Du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 3 janvier 2003. Mopti, Bobo Dioulasso, et c'est reparti pour 6 mois. Un autre avion vient de décoller du Mali vers la France. Celui-ci est parti de Mopti et se dirige vers Lyon. À son bord, parents, sœurs et frères, qui reprendront demain leurs activités, si différentes et si éloignées de celles que nous avons pu vivre ensemble pendant 10 jours. Ils ont partagé la vie de nomade que nous menons depuis notre départ de Lyon. En famille, nous nous sommes déplacés à pied au rythme des populations que nous avons croisées le long de la falaise de Bandiagara. Nous avons mangé le thau, bu le thé et le bissap. Nous avons tenu par la main des enfants venus d'on ne sait où pour nous accompagner quelques pas. Ils ont fait l'expérience de ces nuits au grand air, ces nuits où l'on lutte contre le sommeil afin de s'imprégner d'un de ces moments privilégiés au creux de la voûte céleste. Autant de moments qui nous ont rapprochés et qui faciliteront les échanges que nous aurons par la suite jusqu'à la fin du périple. Ils pourront désormais associer leur vécu à nos courtes conversations téléphoniques ou aux pages du journal de bord se déroulant sur leurs écrans d'ordinateur. Au moment où je vois l'avion disparaître, un profond sentiment de solitude m'envahit. Tout d'un coup, l'Afrique me paraît bien vaste, et je me sens bien peu de choses au milieu de ce continent, sandales aux pieds et sac au dos. Assis sur le bord d'une piste, j'allume ma bouffarde, cadeau de Noël venu de France. Le tabac local crépite dans le foyer en écume de mer. Des volutes de fumée s'envolent et avec elles, le vertige face à la distance restant à parcourir. Cette pause bouffarde deviendra un rite. Chaque soir, après une journée de route, je sortirai cette pipe blanche de son étui noir et préparerai dans un cérémonial coutumier ces quelques minutes d'escapade. Chaque cercle de fumée libéré, plus ou moins adroitement de manière concentrique, sera une pensée vers un proche. Quel que soit l'endroit où je me trouverai, j'aurai ainsi l'impression d'être en présence des miens. Présence éphémère, qu'un simple courant d'air aura vite fait de dissiper, mais présence tout de même. Diego et moi avons rendez-vous à Bobo Dioulasso, d'où aura lieu notre départ du tour burkinabé. J'arrive un jour avant lui pour l'aider à réceptionner le matériel qu'il transporte depuis Bamako. Après une nuit de trajet en car, je me retrouve à la gare routière de Bobo Dioulasso. Bobo est la capitale économique du Burkina. C'est une ville animée, réputée pour ses musiciens, joueurs de balafon et autres percussionnistes. À peine suis-je sorti de la gare qu'une circulation dense et anarchique me pousse à me réfugier de nouveau derrière les grilles. Une mobylette double une voiture qui elle-même double un bus. Je ressors la tête prudemment et observe l'animation de la ville. Au Burkina Faso, les deux roues sont droites, nous a-t-on dit. C'est le moyen de locomotion le plus adapté à la qualité des axes de communication. Comme tout cycliste, j'avais associé le terme générique de deux roues à bicyclette. C'était sans compter les motorisés. Mobylette, Peugeot 103, Yamaha 80, moto, qui sillonnent la ville en continu. En les observant passer, je m'aperçois que l'originalité des deux roues burkinabées réside principalement dans leur chargement. Un vélo ou une mobylette transporte facilement une petite famille, père, mère, enfant, mais aussi deux chèvres, des chaises, des oiseaux en cage. Trois taxis mobylettes se sont arrêtés. Leur chauffeur me demande où je souhaite me rendre. Je leur indique l'adresse de l'association Espérance, avec qui nous sommes en contact pour notre tour en tandem, négocie le prix de la course et monte sur le porte-bagages de l'une d'elles. Pour une fois, pendant tout ce périple, j'aurais souhaité pouvoir mettre un casque. Je me concentre pour garder mon équilibre sur un véhicule qui slalome dans une circulation hasardeuse. Une main tient mon sac à dos et ma sacoche, l'autre s'agrippe maladroitement au porte-bagages. Mes pieds aux orteils découverts sont posés tant bien que mal sur des cale-pieds situés non loin de la jante rayonnée. Autant dire que je n'ai pas relevé l'itinéraire pris entre la gare routière et l'association Espérance. Un arrêt, plus marqué que les précédents, me fait lever la tête, et c'est en poussant un soupir de soulagement que je descends. Un trajet initiatique qui qui m'incite à réfléchir sur les impressions qui doivent parfois être celles de nos copilotes non-voyants à l'arrière de Cyrano et Noisette. Je me rassure en me disant que les tandems vont tout de même nettement moins vite, que nous roulons dans des zones plus calmes et que nous communiquons pour anticiper tout changement de rythme ou de direction et leur décrire les paysages que nous traversons. L'ouverture de la porte métallique de l'association Espérance me demande un léger effort. Non qu'elle soit lourde ou mal huilée, non, mais elle symbolise la reprise. Si je voulais être provocateur, je dirais même notre rentrée. C'est reparti pour le sixième pays à découvrir. La soif de découverte, bien que toujours présente, est un peu moins intense qu'au début. Des attitudes ou comportements jusqu'alors guidés par l'enthousiasme et la spontanéité deviennent à présent réfléchis. Certains nécessitent même un effort. Oh, pas un effort lourd à supporter. Nous avons choisi d'être là et pour rien au monde, je n'échangerai ma place devant cette porte métallique. Mais se réimpliquer dans une nouvelle aventure avec de nouveaux coéquipiers, dans un environnement sans cesse changeant, nous est aussi éreintant qu'excitant. L'investissement est total et parfois la fatigue se fait sentir. Par exemple, le fait d'apprendre quelques mots des langues et dialectes des régions que nous traversons a dorénavant une visée pragmatique. Cela nous paraissait tout naturel pour les premiers pays traversés. Nous savons maintenant que c'est ce qui nous permettra d'échanger quelques paroles avec des habitants de villages reculés. Pas de quoi tenir une conversation, juste une manière de pouvoir rentrer en contact et de nous intéresser à la vie des autres. Cette démarche est devenue volontaire, alors qu'elle naissait d'une envie spontanée. Salam alaikum. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis le secrétaire général de l'association Espérance. Bienvenue, tu dois être Jean-Christophe ? Ce bonjour, je m'appelle Jean, me paraît étranger. Depuis notre arrivée au Maroc, nous saluons tous ceux que nous rencontrons par un « La paix soit sur toi, musulman », un salut que nous avons adopté. Quand on nous l'adresse, notre réponse est sans hésitation. « Alaykoum salam » là-bas. Le Burkina est un pays à 60% chrétien. Mon salam alaykoum avec donc moins de chances de s'adresser à un musulman. Peu importe, il a été compris et bien reçu. Je fais ensuite la connaissance de Lamoussa Traoré, le président de l'association Espérance. Lamoussa est un grand lecteur de littérature française. Non-voyant, il se fait lire ses livres par ses enfants ou neveux. Optimiste par nature et amateur de Voltaire, il répète à qui veut l'entendre « Tout va bien dans le meilleur des mondes ». Jean, quant à lui, est un homme de terrain. Peu lui importe ce que pensent les philosophes. Il cultive son jardin. Ou plutôt, il établit des plans d'action que prend en note sa secrétaire. Au programme de l'année 2002, en rouge sur son calendrier, figure la première rentrée des classes de l'école pour déficients visuels de Bobo Dioulasso. Les locaux dans lesquels nous nous trouvons seront à la fois le siège de l'association et le lieu où seront dispensés les cours spécialisés de braille, d'utilisation des machines Perkins, de mobilité. Ces locaux ont moins d'un an d'ancienneté. Ils ont été construits en dur, dans la proche périphérie de Bobo Dioulasso, et ont été financés en partie par l'organisation anglo-saxonne ADD, Action on Disabilities and Development, une ONG qui œuvre en faveur des personnes handicapées dans les pays en voie de développement. Espérance est la deuxième structure tournée vers les handicapés visuels au Burkina Faso. Elle ne bénéficie pas des moyens de l'association mère, l'APAM, Association Burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, basée à Ouagadougou, la capitale. Une des actions originales qu'elle a su mettre en place est la gestion de 4 bornes fontaines réparties dans la ville de Bobo. Ces fontaines sont achetées par Espérance à l'Office national des eaux et de l'assainissement, ONEA, pour la somme de 180 000 francs CFA, soit 270 euros. Puis confiée à un aveugle, membre de l'association, qui assure la gestion quotidienne de sa fontaine, remplissage des seaux, des bassines et des bidons en eau, gestion de la caisse, petite maintenance. Les bénéfices dégagés sont ensuite divisés en 3 parties égales, l'une pour le gérant, l'autre pour l'association, la troisième pour les frais d'entretien. Le lendemain, un taxi mobilette me ramène à la gare routière. Cette fois-ci, j'ai les mains libres pour m'accrocher au porte-bagages et suis plus à même de repérer l'itinéraire que nous prendrons tout à l'heure en tandem lorsque Diego et son lourd chargement seront arrivés. L'arrivée du bus en provenance de Bamako est prévue à 18h. Il est maintenant 19h et aucune nouvelle de l'autocar. Personne n'est au courant d'un éventuel retard ou de sa localisation actuelle. Des familles attendent patiemment le retour de l'un des leurs au pays. La gare ne désemplit pas. Le balai des véhicules allant et venant dans l'enclos qu'il aurait réservé continue en provenance ou à destination de Nouna, Dedougou, Orodara, Nyangoloko, Diébougou, Dano, Dissine, Bati, Sindou, Kamti, Houndé. Mais aucun n'arrive du Mali. Je me rappelle l'une des dernières phrases échangées avec Diego il y a près de 2 semaines. On se retrouve le 31 à la gare routière de Bobo. On pourra fêter le réveillon ensemble. Bon voyage et à bientôt, amigo. Je retourne voir l'accueil. Le quart de 18h est bien le seul en provenance de Bamako de toute la journée. Et selon l'employé qui me renseigne, il n'y a pas d'autre compagnie qui assure cette liaison. Le quart devrait bien arriver à l'endroit où j'attends, il suffit d'être patient. Les voilà. Une femme a aperçu son mari à travers les vitres d'un car qui se gare. Je devais m'être assoupi. Je sors de mon demi-sommeil au moment où Diego en descend. Vrai, ça me fait plaisir de le voir. Quand nous arrivons dans les locaux d'Espérance, il fait nuit noire. Seul le gardien est encore présent et vient nous ouvrir la porte de la petite pièce qui nous a été allouée. Nous prenons rapidement possession des lieux. Une fois les sacoches décrochées du tandem, nous recréons un désordre qui nous est devenu familier. Les denrées qui nous ont été apportées de France par Karen et ma famille sont alignées sur un lit. Vin, foie gras, touron, crème de marron. Un excès culinaire qui vient trancher avec nos habitudes de ces derniers mois. Nous nous sommes habitués au taux, sauce gombo, cette pâte simple, agrémentée d'une sauce verte et gluante, qui glisse dans nos ésophages, apportant les quelques nutriments nécessaires pour fournir de l'énergie aux organismes. Un toast est porté à la santé de nos amis grenoblois, chez qui nous avions pris l'habitude de réveillonner ces dernières années. 2 tranches de foie gras plus tard, je me retrouve au fond de mon lit pris de nausées. Le changement radical de nourriture n'a pas dû me convenir. Tout honteux de tomber malade d'indigestion dans un pays où la malnutrition est une préoccupation, j'entends à peine Diego me présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Le 2 janvier, la direction de l'association Espérance se réunit afin de nous présenter les 2 volontaires pour la tournée du Burkina Faso à tandem et pour étudier l'itinéraire que nous prendrons. Une réunion très protocolaire, digne d'un conseil d'administration d'entreprise. Le président Lamoussa prend la parole pour introduire la réunion et nous souhaiter la bienvenue, rappelant les liens forts qui unissent son association à des organisations lyonnaises. Monsieur Jean, le secrétaire général, poursuit, présentant l'ordre du jour. La réunion a été préparée avec soin. La lettre que nous avions envoyée quelques mois plus tôt pour présenter le projet « Raconte-moi la Terre » et savoir si l'association était intéressée à participer au projet a été traduite en braille. Monsieur Jean y fait régulièrement référence dans son allocution. Baladant ses doigts sur le papier thermoformé, il illustre ses propos de citations tirées de notre courrier. De temps en temps, il s'arrête. Nos amis français prennent en charge leur copilote sur toute la durée du trajet. « Tu as bien noté cela. Note, c'est important, » dit-il à sa secrétaire, qui dactylographie nos échanges oraux. Ce n'est pas tout de parler. Encore faut-il que le procès-verbal de la réunion soit fidèle. Je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire amusé. Amusé par la différence des modes d'organisation que nous rencontrons pays après pays. Au Maroc, une 10aine de membres de l'Association royale marocaine de sport pour personnes handicapées, assis autour d'une table, se vouvoyaient et s'appelaient par leur titre. Ils nous avaient posé les questions nécessaires à leur bonne compréhension, puis avaient analysé la faisabilité du projet avant de prendre les dispositions nécessaires à sa bonne réalisation. En Mauritanie, la Fédération mauritanienne Handisport, représentée par un seul homme, son président, avait décidé de manière unilatérale que 2 de ses membres participeraient au tour à tandem. Il nous avait donné des directives pour que tout se passe au mieux. Au Sénégal, l'association familiale Appui aux handicapés visuels après nous avoir offert le thé et nous avoir écouté présenter de vive voix notre projet, avait accepté à demi-mot, entre deux morceaux de pastèque, de nous suivre dans notre aventure. Au Mali, la participation de l'Union malienne des aveugles au projet Raconte-moi la Terre, ayant été décidée par le président, en concertation avec le responsable des activités sportives, sur la base de notre correspondance écrite, deux athlètes avaient été présélectionnés et notre arrivée avait été préparée avec soin. À chaque fois, nous jouons le jeu, nous pliant au mode de fonctionnement que nous rencontrons, adoptant les coutumes et les comportements du lieu. Devant l'assurance du président Lamoussa et de M. Jean, Amos et Évariste paraissent effacés. C'est pourtant avec eux que nous passerons les 20 prochains jours, dans une promiscuité peu habituelle. Ils ont plus que leur mot à dire sur l'itinéraire que nous emprunterons. Nous nous rendrons vite compte que cette première rencontre autour d'une table à étudier une carte et les différentes options de route à prendre n'aura pas révélé le caractère de l'un ou de l'autre, loin s'en faut. C'est dans l'action et dans la durée que nous apprendrons à les connaître. Nous faisons part à nos interlocuteurs de notre expérience malienne en termes de déplacement à tandem. Cette fois, nous prendrons en compte l'Harmattan, ce vent du Sahel qui vient du Niger, traverse le Burkina et continue sa route jusqu'en Côte d'Ivoire et au Ghana. En cette saison, il est particulièrement fort, violent, sec et froid. Il soulève la poussière et accable ceux qui le défient. Il vaut mieux collaborer qu'essayer de lui résister. Nous roulerons donc dans son sens, du nord-est au sud-ouest. Au final, nous nous mettons d'accord sur le programme suivant. Un car nous emmènera à l'extrémité nord-est du Burkina, à Dori. De là, notre périple commencera vraiment. Nous traverserons le pays de part en part en passant par Kaya, Ouagadougou, Léo, Diébougou, Gaoua, Banfora puis Sindou, pour enfin revenir sur Bobo Dioulasso. Un programme ambitieux de plus de 1000 kilomètres. Si nous y parvenons, ce sera la plus grande distance parcourue à tandem dans un même pays sur le continent africain.